des raviolis.
Oh, des raviolis.
C'est mercredi.
Mercredi?
Ouais, oui, mercredi.
C'est ravioli.
Bonjour et bienvenue, aujourd'hui c'est mercredi, alors c'est Ravioli sur Radio Bartas sur le 107. Vous êtes avec Hélène et Marc, alors Marc est parti pour l'instant chercher du café, mais on le retrouvera un peu plus tard. Sinon, au menu, on a essayé de faire des raviolis légers avant les fêtes. Donc tout de suite après, on retrouve Alix Fritschi, j'ai bien dit son nom, qui va nous parler de son métier de technicienne en identification criminelle. Bonjour Alix.
Bonjour.
Puis Marc nous présentera la nouveauté musicale spéciale Noël. Ce sera alors mon tour de vous parler de logiciels libres, alors que nos écrans regorgent actuellement de pubs pour des logiciels privateurs. Et oui, les fêtes arrivent, on fait une petite place aux logiciels libres. Puis nous interviewerons Egdionorus Angeleri, également connu sous le nom de Mouche des Anges. Bonjour Egdionorus, je peux vous appeler Mouche des Anges ?
Bonjour, bien sûr.
Puis un peu de musique, retour en force de Marc pour la rubrique ciné et on terminera par Hélène la ramène où quand un rocker alsacien reprend un anarchiste monégaste. Voilà, bon appétit et bonne émission. Alors Alix, donc vous êtes TIC, technicienne oui. Identification criminelle dans la gendarmerie.
Exactement.
Voilà, et vous êtes basée à Mende mais vous agissez dans tout le département.
Voilà, ça. Voilà.
Alors, moi, votre métier fait assez fantasmer, c'est aussi pour ça que je vous ai invité, parce qu'on a vu tellement de séries de TV avec les experts, etc., avec toutes ces personnes de l'identification criminelle.
Oui.
Donc, je m'excuse d'avance, parce qu'un certain nombre de mes questions vont être empreintes de qu'est-ce que j'ai vu à la télé. Donc, ça sera oui. l'occasion un peu de faire la part de la fiction et de la réalité. Alors déjà, quand on pense technicienne d'identification criminelle, moi j'ai pensé à quelqu'un avec une petite brosse qui relève les empreintes, c'est ça, c'est autre chose.
Voilà, oui, qu'est-ce que vous faites ? Ça fait partie de notre travail. En effet, l'identification criminelle, on a besoin de justement la gendarmerie et la police ont mis en place des services où on lorsqu'il y a des crimes, des délits, on intervient pour essayer de trouver les indices. Voilà, pour amener la preuve et essayer avec ces preuves d'identifier les auteurs et de les amener devant la justice.
Alors,
voilà.
Quand vous parlez de crime, on pense tout de suite à un meurtre, un assassinat, mais il y a d'autres cas, j'imagine.
Oui, tout à fait. On a un champ assez large d'intervention. Donc, on va intervenir sur des atteintes aux biens, c'est-à-dire donc tout ce qui est cambriolage. Dans les résidences principales, dans les commerces, des dégradations. Par exemple, des tags, de la casse gratuite d'un abribus, par exemple. Je vais essayer de vous donner des exemples parce que souvent les termes techniques sont pas faciles. Par exemple, lorsqu'il y a des destructions dans des bâtiments publics ou privés, on intervient aussi sur tout ce qui est incendie. Donc,
d'accord.
Incendie d'habitation, incendie de véhicules ou de végétation, voilà. Et nous, on intervient toujours dans le but de savoir sur ces incendies-là si l'incendie est d'origine criminelle, accidentelle ou naturelle. Bon, ça c'est... Donc vous allez voir, notre métier, on caresse quand même beaucoup de champs d'application. Et ensuite, on intervient aussi sur les atteintes aux personnes. Donc les atteintes aux personnes, cela va être des violences... Par exemple, de la séquestration, on va jusqu'au viol. On va aussi sur des découvertes de cadavres. Ça, c'est peut-être la partie. Ce sont des parties qui sont difficiles un petit peu pour nous, techniciens. Mais bon, découvertes de cadavres qui peuvent être accidentelles, qui peuvent être volontaires dans le cadre d'un suicide, ou qui peuvent être aussi des. Volontaires, c'est-à-dire un meurtre, ou des choses comme ça. Voilà. Et nous, on intervient. Pour amener la preuve de la personne.
Voilà, donc vous relevez les preuves, donc
oui.
Les empreintes digitales, l'ADN
oui.
aussi.
Oui, empreintes digitales, ADN, et ensuite tout ce qui est trace. Les empreintes de pas, les empreintes de pneumatiques, on va prélever évidemment les mégots, des habits, en fait, tout ce qui va être utile, qui va nous sembler, pour nous techniciens, amener une preuve. C'est-à-dire la preuve par l'empreinte, la preuve par l'ADN, ou la preuve de l'empreinte de chaussure, la trace de pneumatique, la trace de peinture, enfin, voilà. En gros.
Et après, alors pareil, donc, moi j'ai vu les experts, hein, j'ai pas vu l'expert-mande alors, je sais pas comment ça se passe, mais donc après on voit les techniciens rentrer dans le labo et ceux qui traitent et ceux qui font les ensuite qui font l'enquête. Donc vous, ça va jusqu'à où votre métier ?
Alors nous, on fait tout ce qui est prélèvement. Voilà, sur le terrain, on s'occupe de tout ce qui est prélèvement. Pour ce qui est analyse ADN. Donc nous ne sommes pas équipés. Vous imaginez bien, les experts, eux, sont très forts, ou section de recherche, quand on regarde ça, ils sont très très forts, puisqu'à un quart d'heure, 20 minutes, ils vous trouvent un ADN. Il faut savoir que le travail de l'ADN est beaucoup plus long. Donc il faut des machines quand même assez costauds. Donc nous ne sommes pas équipés. Donc nous faisons appel à l'IRCGN, qui est basé maintenant à Cergy-Pontoise.
Il y en a un pour toute la France.
Oui, l'IRCGN, donc c'est l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale, qui est basé à Cergy-Pontoise. Voilà. La police, il faut savoir que la police a son équivalent, qui est l'INPS, d'accord, qui est basé à Écully. Et dans toute la France, la police nationale a d'autres laboratoires. Et on peut avoir aussi accès à des laboratoires privés, voilà, qui ont un coût plus ou moins important. D'accord. Pour la justice.
Et donc c'est eux qui analysent en fait ce que vous avez prélevé.
Oui, pour l'ADN, voilà. Ensuite, nous sommes en mesure, par exemple, d'analyser tout ce qui est trace digitale. Par exemple, si sur une scène, on relève un morceau de une feuille de papier, toute simple, on a, nous, amende, la possibilité d'analyser cette feuille et de faire ressortir les empreintes.
D'accord. Alors voilà. Justement, je me suis toujours posé la question, cette petite poudre, là, comment ça marche ? Pourquoi elle permet de... Enfin, qu'est-ce qu'il y a dessus ? Qu'est-ce qu'il y a de spécial qui permet de faire ressortir les empreintes ?
En fait, la poudre n'est pas spéciale. Ce qui est spécial, c'est notre peau. C'est nous. C'est l'être humain qui est spécial et qui permet ça. C'est-à-dire que sur nos doigts, on a des acides aminés, la transpiration, le sébum, que l'on appelle, même si on a les mains super propres, on a quand même une fine couche qui fait que, quoi que l'on touche, on laisse sa trace. C'est-à-dire que là, par exemple, je touche votre table, mon empreinte y est. Jusqu'à ce qu'on nettoie, mon empreinte va être là. Et la poudre, en fait, la poudre et tous les systèmes que l'on a pour révéler ces traces, qu'ils soient des systèmes chimiques ou des systèmes de colle, tout simplement, ou en effet la poudre, va s'accrocher sur ces acides aminés. Voilà, c'est assez simple. C'est assez simple dans le processus. Voilà.
D'accord. Et donc, alors après, ces empreintes-là, on les scanne et on les envoie dans un... Enfin, en tout cas, dans les séries, toujours là.
Oui.
Dans un fichier. C'est et ça fait bidoubidoubidoub, ça fait des petits traits. Et au bout de 5 minutes, on a... Donc, ça se passe vraiment comme ça ou...
Et ça fait match.
Voilà,
non,
c'est ça.
Non, pas du tout. Non, malheureusement, on aimerait bien. Hein, ça serait assez sympa. D'ailleurs, bon, ça serait bien qu'on ait aussi des lunettes de soleil, des longs cheveux blonds et qu'on ait des gros pick-up. Non,
ça, c'est l'avantage de la radio. Hein. On peut tout à fait raconter que vous avez des longs cheveux blonds,
oui,
que vous avez des lunettes de soleil.
C'est
et qu'il y a un pick-up garé devant.
C'est ça.
On peut dire ce qu'on veut. Hein.
Non. On a des moyens qui sont techniques et qui sont super efficaces. C'est-à-dire que donc, nous, au niveau de la Lozère, on a un camion qui est un Renault Master allongé, blanc. Alors certainement, certaines personnes ont dû déjà nous voir circuler sur les routes lozériennes, où il y a marqué en gros identification criminelle. Voilà, donc on a ce véhicule qui est complètement équipé et qui nous permet de transporter tout le matériel dont on aurait besoin pour n'importe quelle scène d'infraction sur laquelle on irait. Mais pour répondre à votre question du match, là, de l'empreinte, donc non, ça ne se passe pas comme ça. Une fois que l'empreinte est révélée, donc on la prend en photo. Cette photo, on regarde si elle est exploitable déjà, si l'empreinte est exploitable, c'est-à-dire qu'il faut autant de minutie. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, ça serait un petit peu compliqué. Si l'empreinte est exploitable, on va l'envoyer au fichier automatisé des empreintes digitales, qui se trouve aussi à Cergy-Pontoise. Donc là, on envoie ça comme on enverrait un mail, sécurisé évidemment. Donc, et là, à ce moment-là, il y a un technicien qui prend cette empreinte-là, qui va placer des petits repères sur cette empreinte et qui va donc réussir à faire une sorte de schéma d'empreinte, et ça va partir dans la base de toutes les empreintes que l'on a. Voilà, donc ça va tourner, et si en effet on a un match, parce qu'on appelle ça des matchs, sauf que ça sonne pas partout et ça clignote pas, donc on reçoit le résultat, et on a la personne qui est derrière cette empreinte. Voilà.
D'accord.
Si la personne est connue en base, évidemment.
Alors justement, qui est dans cette base, les personnes qui ont...
Alors les personnes qui sont dans cette base sont des personnes qui ont fait l'objet, qui ont commis une infraction délictuelle. Voilà, donc toutes les infractions délictuelles aujourd'hui prévoient de prendre les photographies et les formalités anthropométriques de la personne. Voilà. Ensuite, pour ce qui est de l'ADN, je vais un petit peu plus loin, ça va être pour certaines infractions délictuelles. D'accord. Voilà.
Et donc, je suis toujours avec ma télé, mais le luminol. Le truc qu'on fait pouette-pouette et après on met des lunettes et on voit toutes les traces de sang et de sperme qui apparaissent.
C'est ça. Alors, il y a deux choses différentes. C'est-à-dire que, en fait, le luminol, nous n'utilisons pas de luminol. Nous, en France, on utilise le Blue Star. Voilà. Et le Blue Star va ne révéler que les traces de sang. D'accord. Tout ce qui est traces de fluides fluide biologiques, ça ne se révèle pas avec une projection de liquide. Voilà, ça on va le voir par luminescence. Par exemple, si on veut chercher des traces de salive, de sperme, de transpiration, on va utiliser donc des lampes avec des longueurs d'onde différentes, équipées de lunettes. Donc ça, on le voit très bien dans les séries. Alors là, ils sont il fait grand jour, alors que nous on ferme tout pour avoir un noir quasi complet pour mieux y voir. Mais ils y arrivent, ils sont très très forts. Et ensuite, par contre, donc pour revenir au Blue Star. Donc c'est un liquide que l'on projette, que l'on vaporise sur un espace qui a été nettoyé. Et s'il y a eu du sang, donc les acides aminés pareil qui sont dans le sang vont réagir avec le produit et ça va vous faire une phosphorescence. Voilà, ce n'est pas une fluorescence parce que ça c'est la différence entre les deux mots. Le fluorescent, on le voit quand il fait jour, et le phosphorescent, on le voit quand il fait nuit. Voilà, c'est un peu comme comme certains insectes, je suppose.
D'accord. Et les portraits robots, c'est vous aussi ?
Oui, les portraits robots. On a une formation aussi sur les portraits robots. Voilà. Donc ça, c'est une formation que l'on effectue et on est amené. Donc je n'ai pas cette formation, moi, pour l'instant. Bon, j'y postule. Mais pour l'instant, je ne l'ai pas. Mais oui, c'est nous qui faisons les portraits robots aussi. Voilà.
Et donc, à la base, vous étiez plutôt scientifique ?
Pas du tout. Pas du tout. Non, pas du tout, pas du tout. J'ai un parcours un petit peu atypique. Déjà, donc pour être technicien d'identification criminelle, il faut déjà être gendarme. Donc, avoir suivi le cursus normal pour entrer dans la gendarmerie. Et ensuite être volontaire, avoir un attrait particulier, puisque bon, en France par exemple, on est à peu près 450 TIC, techniciens d'identification criminelle. Oui, nous en gendarmerie, on aime bien ça, raccourcir les mots. Donc on est à peu près 450, donc sur tout le territoire. Il faut savoir que des TIC, vous en avez dans tous les départements. C'est-à-dire que la cellule d'identification criminelle qui se trouve à Mende, vous avez exactement la même dans tous les départements.
D'accord.
Ensuite, ça varie, la grosseur varie en fonction du travail qu'il y a.
Il y a plus à Marseille qu'à Mende, par exemple.
Oui, évidemment. Évidemment, il fait tellement bon vivre chez nous en Lozère qu'on imagine bien qu'à Marseille, ils ont beaucoup plus de personnel. Mais sinon, les techniques sont les mêmes. Voilà.
Eh bien, je pense qu'on a fait le tour. Merci beaucoup, en tout cas.
Ben
c'était vraiment instructif. Et donc, maintenant, ça va être Marc pour la nouveauté musicale. C'est bon, Marc, là, vous avez fini de vous épiler les doigts de pied ?
Bien sûr, Hélène. Et ce mois-ci, comme nouveauté musicale, je nous ai ramené une petite douceur de Noël. C'est un nouveau titre de Sharon Jones, une soul woman contemporaine, propulsée par l'excellent label True Folks. Alors True Folk, c'est un label américain qui allie à merveille la soul, le funk, l'électro et les musiques latines. Pas une goutte de chanson française, pensez si ça me ravit. Et c'est également par eux que passe la musique de Quantique, d'Alice Russell ou du Hot 8 Brass Band. Si vous ne connaissez pas ces noms, je vous invite à aller très vite consulter leur site pour vous en mettre plein les oreilles. Mais tout de suite, on écoute Sharon Jones qui, comme moi, rêve d'un Noël blanc.
maintenant la rubrique informatique.
Allô, allô, monsieur l'ordinateur, dites-moi, dites-moi.
Alors, je voudrais commencer en proposant un service après-vente de l'émission du mois dernier consacrée à Twitter. Même si ce n'était pas le cœur de mon discours, j'ai évoqué les petits ordinateurs de poche qui font également téléphone et qu'on appelle des smartphones. Et j'ai dit qu'elles avaient la même puissance que les ordinateurs qui avaient envoyé des hommes sur la Lune. Donc, comme on en a reparlé, voilà, donc je voudrais préciser. Donc, pour être plus clair, en fait, je parlais de la puissance de calcul, c'est-à-dire du nombre d'opérations que l'ordinateur est capable de mener à la seconde. Donc, mon smartphone à moi, qui n'est pas un smartphone haut de gamme du tout, il va 30 000 fois plus vite que l'ordinateur qui était dans le module lunaire d'Apollo en 69. Hein. Après, pour être honnête, l'ordinateur du module Orion, donc Orion c'est le module actuel de NASA, hein, qui sont en train de tester maintenant et qui devrait normalement envoyer des humains sur Mars un jour peut-être, il n'est pas plus puissant que mon smartphone non plus, parce que dans les missions spatiales en fait, on privilégie la robustesse d'un système éprouvé et ancien. Voilà, il y a Darty, il ne va pas dans l'espace si votre ordinateur tombe en panne, donc quand vous partez, il faut que l'ordinateur y tienne le coup. Donc on ne prend pas les derniers trucs qui viennent de sortir, on prend des vieux trucs qui marchent bien, et de lentement. Et donc, pour finir avec l'émission du mois dernier, donc je vais décevoir toutes les auditrices qui m'ont contacté en me disant « Mais si on peut envoyer un homme sur la Lune, est-ce qu'on ne pourrait pas envoyer tous les hommes ?» Eh ben non, votre smartphone ne permet pas d'envoyer d'hommes sur la Lune. Mais certains y sont déjà, hein, n'est-ce pas Marc ? Marc ? Ah, ben, il est déjà reparti, il est dans la Lune. Bon, mais revenons à ce qui nous occupe ce mois-ci. Et sans doute le mois prochain encore, car je vais avoir du mal à faire le tour du sujet en une fois, surtout si je continue à digresser comme ça. Donc cette semaine, je vais vous parler de logiciels libres en fait. Mais pour que vous compreniez bien les spécificités du logiciel libre, on va repartir de la base et donc voir ce qu'est un logiciel. Et ensuite, voir comment fonctionnent les logiciels non libres. On va les appeler comme ça pour l'instant. Donc un logiciel informatique, c'est ce qu'on appelle aussi, dans le langage courant, un programme, une application. Maintenant, on dit une app. Et parfois, on parle d'exécutable. C'est pour ça que sous Windows, ça se termine par .exe comme exécutable. Un logiciel, c'est un ensemble d'instructions associées à un jeu de données. Et en fait, ces instructions, c'est on donne des ordres à une machine, en fait. Donc, on trouve des logiciels installés sur les ordinateurs, évidemment. Donc, on pense tout de suite au traitement de texte, au navigateur pour aller sur Internet. Mais aussi, celui qui fait fonctionner votre ordinateur, le système d'exploitation, c'est aussi un logiciel. Ce qui permet à mon ordinateur de communiquer avec mon imprimante, c'est aussi un logiciel. C'est un driver ou un pilote. Et puis comme le numérique envahit notre monde, les logiciels aussi. Alors il y a dans les voitures qui aident à calculer la trajectoire par exemple, dans notre chaîne IFI, dans notre téléviseur, il y en a pour commander les robots dans les usines, dans les nouveaux compteurs électriques pour surveiller notre consommation, puis même dans les pacemakers. Et donc, avant de penser au logiciel libre, comment ça se passe avec le logiciel non libre, qu'on appelle aussi logiciel propriétaire, qui est une appellation assez neutre, et qu'on appelle aussi logiciel privateur. Donc là déjà on est un peu plus engagé quand on parle de logiciel privateur. Il faut d'abord comprendre que l'on n'achète jamais un logiciel, enfin que vous n'achetez jamais un logiciel, mais juste une licence d'utilisation du logiciel. Le seul propriétaire du logiciel, c'est le concepteur ou la boîte qui l'a fait en fait. Donc c'est sûr que pendant longtemps on a pu confondre parce que longtemps on a acheté des logiciels, on a acheté une boîte avec dedans un CD, un support physique, comme on achète du riz dans le supermarché. Mais en fait, bien sûr on achetait quelque chose de matériel, mais ce qu'on payait en fait, bon bien sûr la boîte en carton, mais c'était juste la licence du logiciel. Et donc c'est d'ailleurs pour ça que la copie privée, c'est-à-dire le droit de faire une copie de sauvegarde de logiciel, est parfaitement légale en France. En effet, si on achète une licence d'utilisation, on doit pouvoir continuer à utiliser le logiciel, même si son support de diffusion, le CD, a été mangé par le chien. Et donc, cette licence que l'on a achetée définit comment on peut utiliser le logiciel. Donc là, c'est la grosse différence entre le logiciel libre et le logiciel propriétaire. C'est ce qu'on a le droit de faire avec son logiciel. Et donc, et donc maintenant que certains nombres de logiciels sont complètement dématérialisés et disponibles en ligne, les licences empêchent de les revendre, de les donner ou d'en hériter, quand il ne s'agit pas tout bonnement d'un abonnement. Donc je perds la jouissance du logiciel dès que j'arrête de le payer. C'est vraiment pas comme les biens habituels, les biens matériels. Et d'ailleurs, c'est la même chose pour pas mal de plateformes d'e-book ou de musique en ligne. En fait, je ne les possède pas vraiment. Et donc, qu'est-ce que c'est un logiciel libre ? Alors, être libre, c'est pas forcément être gratuit. Beaucoup de logiciels libres s'obtiennent gratuitement, mais ce n'est pas toujours le cas, de même que certains nombres de logiciels propriétaires sont gratuits. En fait, ça a été défini dans les années 80 par Richard Stallman. Un logiciel libre, en fait, a quatre libertés, vous donne quatre libertés. Vous pouvez utiliser le logiciel comme vous voulez, dans le contexte que vous voulez, sur la machine qui vous plaît, donc pas une seule machine, dans le contexte professionnel, dans le contexte personnel, comme vous voulez. Vous pouvez accéder au code source. Bon, je vous dirais presque c'est le code source. Vous pouvez modifier le logiciel et vous pouvez le diffuser librement, gratuitement ou en paiement. Donc s'il manque ne serait-ce qu'une de ces libertés, il ne s'agit pas de signe libre. Je le précise parce qu'il y a souvent la confusion avec le logiciel open source. Un logiciel open source permet d'examiner le code source, mais ne donne pas forcément toutes les autres libertés. Bon, alors on va les prendre dans l'ordre. Hein. Donc pour la liberté d'utilisation, c'est facile à comprendre. Je ne suis plus limité à un nombre de machines ou une machine spécifique. Je peux l'installer sur toutes mes machines, je peux passer à ma grand-mère, je peux l'utiliser au boulot, je peux l'utiliser à la maison. Voilà. Donc là, j'en fais ce que j'en veux. La deuxième liberté, c'est le droit d'examiner le code source. Alors ça, c'est moins évident et c'est plus spécifique. D'ailleurs, l'immense majorité des utilisateurs de logiciels libres n'useront jamais de ce droit, parce qu'ils n'ont juste pas les capacités techniques de comprendre un code source. Donc il faut savoir que lorsqu'on a un logiciel, on n'a pas directement accès au code source. En effet, le code source, c'est ce qui est écrit sous forme de programme par des humains, puis le texte est compilé, c'est-à-dire qu'il est transformé pour que la machine puisse le comprendre. Or, c'est un processus qui marche dans un sens, un peu comme la soupe moulinée. On ne peut pas refaire des carottes et des pommes de terre à partir de la soupe. Alors, à la rigueur, par tâtonnement, on peut retrouver la recette de la soupe. Hein, c'est ce qu'on appelle le rétro-engineering, quand on parle de logiciel. Donc, ça permet de refaire le fonctionnement du logiciel, mais ça ne permet pas de savoir ce qu'il y a dedans. Bon, ça ne permet pas de savoir s'il y a des failles dedans, s'il y a des bugs. Et là, je ne parle que de l'accidentel, ça ne permet pas de détecter les comportements non désirés, voilà, je suis polie, comme l'envoi de données erronées lors de tests, hein, vous vous souvenez, Das Auto, voilà, par exemple, ou de l'obsolescence programmée, ou bien de la transmission d'informations non désirées. Ainsi, les services sensibles de la défense utilisent des systèmes d'exploitation libre dans lesquels ils peuvent mettre le nez plutôt que des systèmes propriétaires opaques et en plus américains. D'ailleurs, il me semble que la gendarmerie est sous Linux avec Gnubuntu, c'est ça ?
Oui, tout à fait, je confirme.
Voilà. Et en plus, ça nous permet de faire des économies, en plus. Parce que c'est gratuit. Et donc, plus prosaïquement, en fait, si on sait qu'on dit qu'environ une erreur sur 100 lignes de code, eh ben, on veut mieux avoir le maximum de monde qui puisse regarder le code et trouver les failles. Et surtout, quand le logiciel en question, il pilote le refroidissement d'une centrale nucléaire ou bien votre pacemaker. Il vaut mieux qu'il n'y ait pas trop de bugs. Voilà, d'ailleurs, je ne veux pas vous faire peur, mais pour l'instant, les logiciels qui équipent les pacemakers, les défibrillateurs internes et les pompes à insuline sont propriétaires, pas très bien sécurisés, et il a déjà été possible de prendre la main dessus à distance en laboratoire. Mais l'idée principale de Richard Stallman derrière tout ça, le théoricien du logiciel libre, c'est surtout et d'abord que pour être libre, il faut être en capacité de maîtriser la machine plutôt que d'être maîtrisé par elle. Ce qui passe par comprendre comment ça marche et donc avoir accès au code source. Voilà, donc je m'arrête là pour ce mois-ci. Surtout, comme d'habitude, ne me croyez pas sur parole, vérifiez, complétez, échangez, faites confiance à votre intelligence. Et en janvier, on verra pourquoi les logiciels libres sont souvent moches, pourquoi Google finance la fondation Mozilla qui produit Firefox et comment on gagne des sous sans brevet et avec des produits gratuits. Et après les puces informatiques, plein d'autres petites bébêtes.
Son cri est long et puissant.
Quoi, le Yeti ? Le Yeti est une sorte de grand singe triste qui dort debout et dont le cri ressemble effectivement à celui de la chouette.
Bonjour, mes anges. Rebonjour.
Bonjour, bonjour.
Alors, vous faites partie de la famille des éphémères. Aussi, je me permets de commencer par une question très indiscrète, mais qui intéresse tous nos auditeurs, parce que quand on pense éphémère, on pense tout de suite à ça. Quel âge avez-vous ?
Ouh là là. Alors là, on est en plein mois de décembre, alors je ne suis pas encore adulte, mais j'ai pas loin de 6 mois quand même, hein, donc je ne suis pas tout jeune non plus. Hein. Mais pour le moment, je ne suis qu'une larve et je vis dans l'eau.
Alors, pour nos auditeurs qui auraient mal réglé leur poste de radio et qui n'auraient pas d'image, pouvez-vous vous décrire ?
Ah bah oui, c'est vrai. Donc, je ne suis pas bien grand encore, je suis une petite bête toute plate qui court sur les cailloux au milieu de la rivière en raclant la surface des cailloux pour me nourrir. J'ai des espèces de pièces buccales, des gros yeux. J'ai un air un petit peu que certains trouvent un petit peu étrange. Moi, je me trouve très, très beau. Hein. Et puis, j'ai deux longs fils à l'arrière de mon corps qu'on appelle des cerques et qui me permettent de nager quand c'est nécessaire.
D'accord. Alors là, j'ai un peu de mal à voir, mais vous faites quelle taille ?
Tout mouillé. En ce moment, je suis pas loin d'avoir 5 mm quand même. Hein.
Quand même. Alors, ici, on aime les raviolis, mais pas que. Alors, faites-nous saliver. C'est quoi votre menu préféré ?
Oh, mon menu préféré, alors, c'est dans les endroits où le courant est pas trop fort, sur les galets, il y a des petites diatomées absolument délicieuses. Alors, celles que je préfère, c'est les brunes. Les vertes sont pas mauvaises, mais les brunes, qu'est-ce que c'est bon ?
Alors, bon, j'ai commencé par une question un peu indiscrète, mais est-ce que vous êtes marié ?
Ah ben, moi, je n'ai pas encore l'âge, à vrai dire. Hein. Là, je suis trop jeune, en fait. Le mariage, dans notre famille, c'est quelque chose de très particulier. En fait, on n'a pas les problèmes que vous pouvez avoir après le mariage, s'entendre, pas s'entendre, de disputes, de tout ça. Parce que le mariage dure très, très, très peu de temps. De toute façon, on se marie juste avant de mourir. Donc, en général, ça se passe toujours très, très bien.
D'accord. Donc, c'est juste, en fait, pour l'héritage que vous vous mariez. Pour les problèmes de droit d'héritage.
En quelque sorte, oui.
Mais alors, les enfants ?
Ah ben, les enfants, moi-même, voyez-vous, j'ai pas connu mes parents. J'ai été mis sous forme d'œuf dans l'eau au mois de juin, à peu près. Et puis, voilà, quand je suis éclos, mes parents, ils étaient morts depuis belle lurette. Et j'ai dû me débrouiller tout seul, mais je me débrouille bien, quand même.
Vous avez beaucoup de frères et sœurs ?
Oh non, 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 pas beaucoup, non, entre 200 et 800, mais pas plus, hein, c'est vraiment, nous sommes une petite famille, il y en a des beaucoup plus grandes.
Le repas de Noël va être sympa.
Ah oui, c'est sûr. Alors, en fait, il y en avait autant, mais à la première crue d'automne, déjà, il y a 90% de mes frères et sœurs qui sont morts, mais moi, j'ai survécu vaillamment, et me voilà, bon, j'espère passer après la crue de printemps, et tout ira bien.
Et donc, on vous appelle Mouche des Anges.
Eh oui.
Pourquoi ?
Alors, c'est paradoxal parce que pour le moment, je ressemble à tout sauf à une mouche. J'ai pas d'ailes, je suis plat et je racle les cailloux. Les mouches, ça fait pas ça. Seulement, voilà, mon rêve, ça sera le mois de juin. Et quand j'émergerai sous forme d'une splendide éphémère qui vole, et là, je ressemblerai non pas à une mouche, mais à quelque chose de bien plus beau, à une éphémère avec de longs cercles qui volera vers le soleil et qui séduira, enfin, qui sera splendide, quoi.
Mais qui séduira aussi.
Oui, bien sûr. En fait, quand on passe à l'état adulte, on n'a qu'une seule vocation, c'est ça, hein, c'est séduire.
Une belle leçon de vie. Et vous habitez où ? Dans quelle région ?
Ah ben,
parce que là, vous êtes à Florac, mais...
Oui. En fait, toute ma famille, les Mouches des Anges, habitent en Lozère, dans les Cévennes et dans les Pyrénées, et c'est tout. Sur la planète, on n'habite que là. C'est-à-dire qu'effectivement, on occupe juste cette partie de la planète, et on s'y trouve très bien. Pyrénées et Lozère, un peu, voilà, un peu le Cantal, mais pas plus haut, hein.
D'accord, donc vous êtes vraiment des néos, pas des néos justement. Et justement, à propos de ça, vous avez la réputation d'être un peu rétro, les éphémères, d'être un peu archaïque. D'où vient cette réputation ?
En fait, c'est vrai qu'on est là depuis un certain temps. Disons que c'est vrai que déjà au Carbonifère, il y avait nos ancêtres qui nous ressemblaient beaucoup. Donc c'est quand même pas d'hier, quoi. Il y a plus de 100 millions d'années qu'on se débrouille par ici. Donc, enfin, pas par ici, parce qu'à l'époque, on était sûrement ailleurs. Mais bon, on n'est pas d'hier, donc on a gardé un petit côté rétro, mais bon, pas trop quand même. Hein. On a nos petites modernités, on s'est quand même bien adapté. Par exemple, au moment où on est adulte, comme en fait, pour voler, il faut être léger, on s'est débarrassé de tout ce qui pèse. On n'a plus de pièces buccales, plus de tubes digestifs, plus rien. On n'a plus que des ailes et des beaux yeux pour séduire. Et puis, de quoi se reproduire, évidemment, mais c'est tout. Donc, on a su quand même s'adapter à la modernité, mine de rien.
Alors, justement, comme vous évoquez la question, et comment on fait les bébés ?
Ah, comment on fait les bébés, ça... Ben voilà, par un... Je sais déjà ce qui va se passer, on le sait tous dans notre mémoire collective, par une belle matinée de juin, je vais sortir de l'eau, il va me pousser des ailes, Et je vais m'envoler, mais je ne serai pas encore adulte. J'aurai encore une mue à faire, donc j'irai me réfugier dans un petit coin de buisson. Et là, je ferai ma deuxième mue et hop, je m'envolerai. Et là, comme je suis un garçon, comme ça n'a échappé à personne, je volerai sur place pendant un certain temps en guettant une jeune mouche des anges qui passe. Et là, je me précipiterai sur elle. Il y a des chances que je ne sois pas le seul à me précipiter parce qu'on vole tous en essaim comme ça. Mais comme je suis nettement plus beau et plus fort que les autres, c'est moi qui me reproduirai avec elle et ça sera une histoire d'amour fantastique. Et ensuite, elle ira déposer des œufs dans la rivière. Et moi, comme elle devra partir et me quitter pour aller déposer ses œufs, de désespoir, je mourrai et je me laisserai emporter par le courant. C'est une belle histoire quand même.
Eh ben, merci beaucoup, Angèle. J'avais pensé Angèle, mais comme je vois que vous êtes un garçon, je vais dire Angèle, comme dans la série. Voilà, c'est aussi un de vos petits noms. Et donc, maintenant, un extrait du premier EP du groupe Feu Chatterton, qui vient d'ailleurs de sortir un nouvel album. Bon, je ne l'ai pas encore entendu, mais je suis sûre que c'est super. Et c'est juste pour faire mentir Marc, comme quoi on peut se trémousser sur un dance floor sur du français.
Madame, je jalouse souvent qui vous caresse prestement la joue. Des provinces andalouses, panaméricaines, souvent suave et si doux. Madame, je jalouse. Madame, je jalouse souvent qui vous caresse la joue en ces provinces andalouses. Lui vient se poser contre votre peau d'acajou. Lui vient se poser contre votre peau d'acajou. Quand je reste à Paname. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Chaque missive la voyage. À chaque missive la vois-je. Je crains de vous causer l'ennui. Et cette attente comme un missile endolorit ma tête, vois-je, vois-je. Endolorit ma tête, vois-je, vois-je. Que deux fois passe le jour et vienne la nuit. Passe le jour et vienne la nuit. Tu me reviennes, toi, sur l'autre rive. Et tu avec un autre. Les choses nous échappent. Pourquoi les retenir? Par le bout de l'écharpe. Si tu te venir étrange, étrange l'un à l'autre. Au cou, le souvenir. Étrange. Et je reste à Paname. Tu sais de mémoire ancienne te méfier les braves de leur soif inopportune. Combien de lâches sont venus ici courir chimère à coups de fusil. Ivres de gloire ont-ils pensé que ton cœur serait conquis, percé de flèches et de rancœur. Comme tes côtes mexicaines de Malinche. De Malinche. Il n'y en aura qu'une. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Ah oui.
Le groupe, c'est Feu Chatterton, la chanson, c'est La Malinche, l'émission, c'est Mercredi, c'est Ravioli, la radio, c'est Bartas, et maintenant, c'est la rubrique ciné de Marc.
Cinéma ! Cinéma ! Oui, je sors, je suis cinéma !
Non mais n'importe quoi, Hélène, hein ? Ah, on est à l'antenne, mais heureusement que les auditeurs n'entendent pas les insanités que vous dites pendant le générique. Hein. Soit, revenons-en à l'actualité ciné, avec d'abord un petit focus sur l'actualité nationale. Alors que l'on sait maintenant officiellement qu'un tiers de la population française se situe du côté obscur, j'aimerais tous vous rassurer, c'est bientôt le réveil de la force. Je parle évidemment du retour de la saga Star Wars. Bon, en fait, c'est pas rassurant du tout, il n'y a que dans les galaxies lointaines que la force se réveille. Bon, le réveil de la force, donc, est le 7e épisode de la saga Star Wars. Resituons un peu, entre 77 et 83, du siècle passé, George Lucas sort les trois premiers films, qui sont en fait les épisodes 4, 5 et 6. C'est avec l'impitoyable Darth Vader contre Luke Skywalker, Chewbacca, Princesse Leia, Maître Yoda et Han Solo, alias Harrison Ford. Je n'ai pas cité le nom des autres acteurs, malheureusement pour eux, personne ne s'en souvient. Alors, le space opéra, puisque c'est comme ça qu'on nomme le genre même si personne ne chante, le space opéra donc fascine toute une génération, la mienne. On se repasse en boucle l'attaque de l'étoile noire et on ajoute le bruitage sabre laser à n'importe quelle bagarre de bout de bois. Ça fait... Vous voyez, je le fais bien, hein, non ? Soit, encore. Donc, au passage, en plus de créer un univers, George Lucas crée un modèle économique, le produit dérivé. Et les figurines plastiques réussissent complètement leur domination de la planète Terre, contrairement à Darth Vador. À partir de 1999, arrivent les trois premiers épisodes qui racontent la jeunesse de Darth Vador, son passage du côté obscur. On a beau connaître la fin, on fonce tous voir ça, pour ressortir un peu déçu, il faut bien le dire. C'était mieux avant, comme toujours. Même si avant, c'était après. Enfin, vous me comprenez. Pourtant, rebelote, les personnages 3D, THX, virtuels, envahissent toutes les consoles de jeux. On est passé à l'ère du merchandising virtuel. Et là, cette année, événement. Un vrai nouvel épisode, le 7, avec en plus le retour de Luke, Leia, Han Solo et Chewbacca. Alors je n'essaierai pas de vous le vendre, hein, je ne l'ai pas encore vu et je n'ai pas lu grand chose dessus. Mais de toute façon, vous avez déjà fait votre choix. Soit vous vous en tamponnez de savoir si Han Solo sait toujours manipuler le pistolet laser, soit vous vous êtes pris pour un Jedi pendant toute votre enfance et il vous faut voir ce film, quitte à faire fi de toute prudence et à passer les frontières du département pour ça. Ça sera mon cas. Mais revenons à notre territoire et à tout ce que vous pourrez voir dans le cadre rassurant mais vigilant de notre petit village français. C'est la période des sorties en famille et je vous le dis tout de suite, ma chère Hélène, quand on regarde le programme de Cinéco, c'est vraiment Noël. Ça commence le mercredi 23 décembre avec Microbes et Gasoil de Michel Gondry. Cette fois-ci, Michel Gondry se lance dans un road movie infantile. Pendant les grandes vacances, Microbes et Gasoil prennent la route sur leur machine propulsée par un moteur de tondeuse à gazon. En fait, c'est presque étonnant que Michel Gondry prenne pour la première fois l'enfance comme sujet, puisque le réalisateur peut parfois s'apparenter à un grand enfant qui aime partager les histoires qu'il s'est lui-même inventées. Ses films sont souvent truffés de bricolage, d'animation, d'invention et de système D. Des vrais cas à jouer sur pellicule. En même temps, malgré cette signature qui fait de lui le géotrouve-tout du cinéma, Gondry arrive sans cesse à se renouveler, à sans cesse surprendre le spectateur. Dans sa filmographie, on croise Boris Vian, le Frelon Vert, un héros Marvel, sa tante institutrice en Cévennes ou Noam Chomsky. C'est pour ça que, sans avoir vu le film, à nouveau, ni avoir lu de critique à son propos, toujours, je vous recommande chaudement d'aller le découvrir en famille à la Jeunette ou dans une autre salle du circuit Cinéco. Deuxième gros cadeau de Noël, le 30 décembre, l'animation va à la rencontre du pastoralisme avec Shaun le Mouton. Shaun, c'est un mouton créé par les studios Artman, les rois de l'animation et de l'humour anglais pour petits et grands. Donc Shaun et sa ferme se sont fait connaître dans la série du même nom, et c'est maintenant l'heure de la consécration sur grand écran. Peut-être un peu plus enfantine que les aventures de Wallace et Gromit qui ont fait connaître le studio, celles de Shaun sont muettes, mais on est bluffé par toute l'expressivité que les animateurs arrivent à coller dans quelques grammes de plasticine. Donc je vous invite à nouveau très très chaudement à aller voir ce film que j'ai vu pour le coup. Hein. Là, je me suis régalé. Voilà, et avant Noël, vous pouvez aussi courir vous gaver de DVD à la Nouvelle Dimension qui fermera ses portes le 24 décembre pour les vacances. Et bah voilà, je pense que c'est vraiment le bon moment, la meilleure période Noël et les vacances là pour se gaver de DVD et faire une grosse régression cinématographique pour digérer les fêtes. N'est-ce pas Hélène ?
Mais bien sûr Marc, moi les indigestions c'est mon dada, d'ailleurs j'ai déjà bien commencé pour être en forme, en tout cas je risque pas le claquage au moment de Noël. Donc merci Marc, et maintenant notre dernière chronique, Hélène la ramène.
Hélène, je m'appelle Hélène, je suis une fille.
Oh mais ta gueule toi, ta gueule,
ta gueule.
Chères auditrices et auditeurs, je ne vais pas me cacher derrière mon petit doigt. D'ailleurs, c'est pas possible parce que je dépasse. Ou bien alors, il faudrait reculer beaucoup pour que je sois cachée entièrement. Mais ça non plus, c'est pas possible car je ne suis pas encore touchée par la maladie qui fait grandir les bras quand on vieillit. Je parle bien sûr de la presbytie. Je ne vais pas me cacher derrière mon petit doigt, non plus derrière tous les petits doigts de Shiva, qui en a plein, et que même c'est dommage d'avoir autant de doigts quand on n'a que deux oreilles et un seul anus, comme quoi la théorie de l'évolution, c'est n'importe quoi. Sauf si on croit à la théorie du gène égoïste, dont je vous parlerai une autre fois. Et puis de toute façon, c'est même pas la peine d'en parler, puisque c'est Dieu qui a créé tout ça, parce que tant qu'à faire, je préfère me mettre à dos les athées plutôt que les croyants, ils sont beaucoup moins violents. Et c'est mal me connaître de penser que je vais me cacher derrière une interminable introduction. Donc, je le dis tout de goût, quitte à outrer l'intelligentsia floracoise, ex-68arde et maintenant post-sexagénaire, voire carrément, pour certains, subclaquante, je n'aime pas les chansons de Léo Ferré quand c'est lui qui les chante. Ah oui, excusez-moi, on me parle dans mon oreillette. Ah oui, c'est la direction auditeur marketing et vente de temps de cerveau disponible de Radio Bartas. Oui, là je suis en direct, oui. Ah d'accord. Bon, alors on me demande, vu que l'intelligentsia floracoise ex-68arde et maintenant post-sexagénaire, voire carrément pour certains subclaquante, constitue une bonne partie de nos auditeurs, de changer de sujet. Passons donc maintenant à la rubrique science. Diggy ding dong dong. Aujourd'hui, le gène égoïste. Le gène égoïste, c'est quoi ? Ce n'est pas le gène de l'égoïsme. Pas du tout, mais c'est une théorie du biologiste Richard Dawkins qui tente d'expliquer la persistance de caractères non optimaux et même contraires à l'intérêt de l'espèce dans le contexte de la sélection naturelle. Ce chercheur part du postulat que les gènes tendent à l'immortalité en s'assurant de leur transmission de génération en génération. En fait, ils nous influenceraient en nous faisant reconnaître les porteurs du même gène et en les privilégiant, ce qui expliquerait du même coup l'altruisme, qui est quand même un truc de bizarre l'altruisme. Voilà. Comme exemple, les auteurs de cette recherche donnent l'exemple d'une hypothétique barbe verte. Mais afin d'être bien comprise de tous nos auditeurs, même de ceux de Kézac, je vais en prendre un autre plus parlant. Et comme l'époque n'est plus à la finesse, je vais donc parler des roux. Être roux, c'est bien connu, ça ne sert à rien, à part enrichir les cancérologues et servir de bouc émissaire quand l'idiot du village et la vieille femme qui connaît les plantes et qui vit seule au bout du village sont partis en vacances et qu'on ne sait plus sur qui lancer des pierres. Et pourtant, il y a toujours des roux, parce que depuis des siècles, le gène de la rousseur oblige ses porteurs à se reproduire, malgré l'odeur. Alors voilà, on va encore dire que j'ai un problème avec les roux. Mais c'est pas vrai du tout. En fait, j'ai surtout des problèmes avec les maris des rousses. Mais j'y peux rien, moi, si je ne peux pas m'empêcher d'avoir envie de mélanger mes gènes avec Suzanne Sarandon, Christina Hendricks ou Julian Moore. Bon, mis à part de prouver une excuse bidon à mes penchants libidineux, ce qui me plaît dans cette histoire, c'est le changement de perspective, en fait. Nous, humains, au téléencéphale hautement développé et au pouce préhenseur, maîtres de l'outil, de la pierre polie au smartphone qui nous permet d'envoyer nos semblables dans l'espace, et capables de penser abstraite, nous, humains, le chef-d'œuvre ultime et autoproclamé de l'évolution, serions en fait juste des vaisseaux permettant à des gènes en quête d'immortalité de perdurer dans le temps. Bon, d'accord, cette théorie est très loin de faire l'unanimité parmi les scientifiques. Et d'une façon générale, dès qu'on essaye d'expliquer un comportement par des gènes, une petite lumière rouge, ou un rouquin resté plus de 5 minutes sur la place de l'espiguette peut aussi faire l'affaire, doit s'allumer dans votre esprit. Cela peut facilement et rapidement être instrumentalisé, et oui, ça l'est. Alors, nature ou culture ? Génétique ou liberté ? Et est-ce que des gènes alsaciens peuvent être raisonnablement attirés par des jeunes monégasques. Est-ce qu'il est naturel qu'Alain Bachung chante Léo Ferré? Et pourquoi je préfère vous passer une chanson de Léo Ferré chantée par un autre? En effet, même si je me targue, non pas d'être de Tarbes, comme le disent soit les comédiens s'entraînant à améliorer leur diction, soit des imbéciles heureux qui sont nés quelque part, en l'occurrence donc à Tarbes, mais ça c'est pas une chanson de Léo Ferré, mais de Georges Brassens, dont je dirais du mal dans une autre chronique, ne mettons pas tous nos vieux dans le même panier. Donc, même si je me targue d'aimer la bonne chanson française, avec des vrais morceaux de tripes dedans, j'ai beaucoup de mal avec les interprétations de Léo Ferré. Mais j'aime beaucoup ses chansons. Surtout, principalement, uniquement, quand elles sont chantées par quelqu'un d'autre. Par quelqu'un qui sait chanter, dirais-je, si je ne craignais pas de me mettre à dos ses fans, car un coup de canne bien placé, ça peut faire mal. Ou en tout cas, par quelqu'un qui n'en fait pas des tonnes et qui ne confond pas le chant et l'interprétation surjouée, où l'on ne chante plus, mais où on cabotine. Oui, vous l'avez compris, j'aime pas non plus Juliette Gréco. Bon, d'accord, je ne suis pas tendre avec nos vieux. Mais qui a dit que l'époque était à la tendresse? Avec le temps, va, tout s'en va. Et si on faisait mentir Léo? Et si on arrivait à être aussi malin que nos gènes et à toucher du doigt l'immortalité? Et si, pour une fois, on utilisait notre téléencéphale hautement développée pour garder bien au chaud, dans un petit repli, ceux qui sont partis? Mais pas que pour nous, qu'on continue à en parler, à cultiver la mémoire. Et Léo continue d'exister tant qu'un rocker, moitié breton, moitié kabyle, moitié alsacien, reprend ses chansons pour les faire siennes dans la compile avec Léo. Avec le temps, va tout s'en va? Faire mentir Léo, et puis Brassens, et puis Villon, en mettant à l'abri les neiges d'antan dans notre mémoire, dans nos carnets. Écrivez vos souvenirs, ravivez votre mémoire, transmettez-la. Soyons des vaisseaux, oui, mais pas du gène égoïste, mais du souvenir de ceux qui ne sont plus là, et qu'on a aimés, qu'on a connus, qui nous ont émus. Soyons comme les hommes bibliothèques de Fahrenheit 451. Il faut lire les portraits des victimes des attentats, il faut écouter un rockeur alsacien mort, trop vite chanter un vieil anard qui serait bien vu espagnol. Il faut parler de Farinette, une petite chienne morte depuis 60 ans, mais qui remue encore un peu la queue parce qu'on parle encore d'elle. Raconter ceux qui sont partis. Bruno, qui bombait en énorme l'entrée du lycée, le nom des Dead Kennedys, alors qu'il était le seul à les écouter. Et Florence et sa façon spéciale de tourner les yeux, et puis après la tête, tous deux morts avant 20 ans, il y a maintenant plus de 20 ans. Et puis papa.
Avec le temps... Avec le temps va, tout s'en va. On oublie le visage et l'on oublie la voix. Le cœur quand ça va plus, c'est pas la peine d'aller chercher plus loin. Faut laisser faire, et c'est très bien. Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va. L'autre qu'on adorait, qu'on cherchait sous la pluie. L'autre qu'on devinait au détour d'un regard. Entre les mots, entre les lignes et sous le phare. Grassement maquillé qui s'en va faire sa nuit. Avec le temps, tout s'évanouit. Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va. Même les plus chouettes souvenirs, ça t'a une ses gueules. À la galerie, je farfouille dans les rayons de la mort. Le samedi soir, quand la tendresse s'en va, toute seule. Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va. L'autre à qui l'on croyait pour un rhume, pour un rien. L'autre à qui l'on donnait du vent et des bijoux. Pour qui l'on eût vendu son âme pour quelques sous. Ouh. Devant quoi l'on se traînait. me traînent les chiens. Avec le temps. Tout va bien. Avec le temps. Avec le temps va, tout s'en va. On oublie les passions et on oublie les voix qui vous disaient tout bas les mots de pauvres gens. Ne rentre pas trop tard, surtout ne prends pas froid. Avec le temps. Avec le temps va, tout s'en va. Et l'on se sent blanchi comme un cheval fourbu. Et l'on se sent glacé dans un lit de hasard. Et l'on se sent tout seul, peut-être, mais peinard. Et l'on se sent floué par les années perdues. Alors vraiment, avec le temps, on n'aime plus. Avec le temps, avec le temps, va tout s'en va. Avec le temps va tout s'en va. Avec le temps. Avec le temps va tout s'en va. Avec le temps. Avec le temps. Avec le temps va tout s'en va. Avec le temps. Avec le temps va tout s'en va. Avec le temps.
Voilà, c'est fini pour Mercredi, c'est Ravioli, pour aujourd'hui et même pour 2015. On se retrouve en 2016 avec Marc di El Gringo. Bon, vous l'avez compris, auditeur perspicace, il n'était pas vraiment là aujourd'hui.
Bien sûr, Hélène.
Merci tout de même à lui pour tout ce qu'il a enregistré avant de partir à l'autre bout du monde. Par contre, était bien là dans nos studios et encore merci à eux, Alix Fritschi, alias la Sarah Seidel mandoise. Merci Alix. Et Bruno Righetti, on n'a pas dit son nom, Bruno Righetti, alias, je ne vais pas dire le nom, hein, je vais juste dire la mouche des anges, ça va être ça, merci Bruno. Alias Angèle, voilà, merci à tous les deux, c'était super. Donc, à la suite, à 19h, donc pour ceux qui nous écoutent vraiment en direct, les annonces. Sinon, si vous êtes en train de nous réécouter, jeudi midi, voilà, on sera rediffusé à midi 10 après RFI. Bonne soirée à vous. Est-ce que je finis en avance? Non, je finis en avance. Bon, alors, ça porte pas malheur, j'espère. Bonne soirée et prenez soin de vous. À bientôt.
Aujourd'hui, mercredi, c'est Ravioli. We're having ravioli.
Oh, des raviolis.
C'est mercredi.
Mercredi?
Ah, oui, mercredi.
C'est ravioli.